Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h et en direct bien sûr. Alors comme tous les jours de 15h à 16h puisque vous êtes là toute l'heure, hein, c'est vrai. Il est à mes côtés pour nous délivrer sans ordonnance, sans rendez-vous, sans ordonnance, vos meilleurs conseils. C'est Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un sujet un peu tabou, mais vous le savez, dans Sans Rendez-vous, ça ne nous fait pas peur. Alors un grand dossier consacré aux chirurgie de l'intime chez l'homme. Et oui, ça peut surprendre, mais ce type de chirurgie devient de plus en plus courante actuellement. Alors, comment ça se passe? Pour quel résultat? C'est ce que nous détaillera notre invitée, c'est le docteur Barbara Hersant. Elle est chirurgien plasticien à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un focus cet après-midi sur la vitamine D. Depuis quelques semaines, on entend beaucoup de choses au sujet de supplémentation pour faire du bien à notre système immunitaire et même peut-être nous protéger du coronavirus. Docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, nous dira ce qu'elle en pense. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces célibataires qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir sur leur rage pour trouver l'amour.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question de Vincent qui vit à Évreux, écoutons-le.
C'est vrai que le soleil guérit l'acné, si c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait même faire des UV l'hiver pour ne plus avoir boutons, ce qui m'arrangerait fortement? Merci beaucoup, belle émission.
Alors, pour vous répondre, Vincent, on s'est tourné vers un spécialiste de la peau, le docteur Annick Barbeau, chef du service de dermatologie à l'hôpital Tenon.
Alors, le soleil, c'est un faux ami de l'acné, parce que lorsque l'on va au soleil ou lorsqu'on est exposé aux UV, on va avoir une impression immédiate d'amélioration dans la mesure où il va y avoir une diminution de l'inflammation. Ensuite, si on est un peu bronzé, on voit un petit peu moins les traces d'acné. Donc, on a franchement l'impression qu'on s'améliore. Malheureusement, ce qui se passe en dessous est beaucoup moins réjouissant parce que les ultraviolets, les UV, vont augmenter l'épaisseur de la peau et vont augmenter la formation de comédons, donc les points noirs. Donc c'est une très mauvaise idée l'hiver de faire des UV parce que ce phénomène d'aggravation de l'acné par augmentation de fabrication des comédons, eh bien elle se reproduira avec les UV et donc vous risquez de à terme déclencher une acné beaucoup plus forte que celle que vous aviez avant de vous exposer aux UV.
Bon, bah je crois qu'on oublie les UV, hein, Jimmy, c'est bon.
Moi j'ai pas de boutons de toute façon, donc pas d'UV.
Ah oui, vous êtes parfait, c'est vrai. C'était le docteur Barbeau au micro de Benjamin Lévesque. Bon, on va prendre une autre question d'auditeur qui nous a été envoyée par Stéphane, qui vit dans le Nord. Il nous a écrit, Jimmy, pour nous demander la chose suivante. Je vous lis son message. J'ai entendu à la radio qu'on avait trouvé au Canada un médicament miracle contre la Covid. Un truc que l'on prend normalement contre les crises de goutte. Il se trouve que mon papa, âgé de 82 ans, a justement un traitement contre la goutte. Cela veut dire qu'il est protégé contre ce virus. Est-ce qu'il, même s'il n'est pas vacciné, voilà, il précise. Jimmy, je suppose que c'est de la colchicine hein, dont on parle cet homme, Stéphane. D'abord, c'est quoi la colchicine?
Alors la colchicine, c'est ce qu'on appelle normalement un antimitotique. C'est un nom hyper compliqué. En gros, c'est un dérivé d'un anti-inflammatoire pour faire très simple.
Très bien.
L'utilisation la plus courante, c'est dans la goutte. On prend ce genre de traitement quand on a mal. Et puis on peut le prendre dans d'autres indications. Si jamais vous avez une inflammation du cœur qu'on appelle la péricardite, eh bien on va vous donner ce traitement pendant quelques semaines. Donc retenez grosso modo que c'est une sorte d'anti-inflammatoire et que donc il y a des effets secondaires.
Alors que montrent les études canadiennes dont parle effectivement Stéphane, qui je suppose vous allez nous dire sont à prendre avec précaution?
Alors attention, avec tous ces effets d'annonce, à chaque fois qu'on a une molécule extraordinaire...
Il y en a eu plein depuis quelques mois.
La première c'est la chloroquine qui devait sauver l'humanité et malheureusement qui n'a pas marché. Et à mesure qu'on a des communiqués de presse, eh bien on va entraîner de la désinformation.
Alors, vous précisez communiqués de presse, hein, parce que ce n'est pas des publications scientifiques.
Quand on regarde le communiqué de presse, on a l'impression que c'est super. C'est Captain America, c'est Iron Man, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, l'étude, elle va paraître dans un journal et donc on va lire le résumé. Et puis là, tout d'un coup, le niveau baisse. On se dit, tiens, c'est Inspecteur Gadget, donc c'est un peu moins bien, mais ça marche quand même. Et puis quand on lit dans les détails, eh bien, on se rend compte que c'est plutôt du niveau de oui-oui. Donc ça marche pas terrible. Et donc, j'ai été voir cette étude pour me dire, est-ce que vraiment ça peut sauver l'humanité? Puisque dans le communiqué de presse, on annonce une baisse de la mortalité de 44%.
Oui, c'est énorme.
Et un taux d'hospitalisation réduit de 25%.
Aussi, c'est pas mal.
C'est énorme. Honnêtement, on se dit, on va donner sa chance à ce traitement. Et puis quand on regarde les détails, eh bien, on se rend compte que dans le groupe qui a reçu un placebo, c'est-à-dire pas de traitement, on a eu 9 morts. Dans le groupe avec la colchicine, on en a eu 5. Donc effectivement, vous avez une réduction, mais l'échantillon
est tellement petit
qu'on ne peut pas pour l'instant reproduire ça à grande échelle. Alors peut-être que la colchicine va marcher et peut-être que des études de plus grande ampleur vont prouver son efficacité.
On ne jette pas la poubelle tout de suite. Voilà,
exactement. Mais à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, il est illusoire de croire que la colchicine va vous protéger. La seule chose qui vous protégera, c'est la vaccination et le masque. En attendant qu'on soit tous vaccinés, parce qu'il va falloir encore attendre un petit peu.
Donc on est d'accord, le papa de Stéphane, qui prend a priori de la colchicine, il n'est pas protégé contre le coronavirus.
Absolument pas, s'il veut être protégé, c'est la distanciation sociale, c'est le lavage des mains.
Il a 82 ans, donc la vaccination, évidemment.
Et la vaccination, vu que désormais on peut le faire. Et attention, la colchicine a des effets secondaires qui sont graves. C'est un médicament qu'on appelle la marge thérapeutique étroite. C'est un mot compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est que la dose efficace est très proche de la dose toxique. Ça veut dire qu'il peut y avoir des effets secondaires graves pour lesquels on n'a aucun traitement. Si jamais vous faites un surdosage en colchicine, vous pouvez mourir. Et il y a des associations qui sont formellement contre-indiquées, notamment les antibiotiques, les macrolides, l'azithromycine dont on a parlé est formellement contre-indiquée. Il y a des interactions
donc on
avec
joue pas
les
à
médicaments
contre
le cholestérol,
surtout.
Avec les anticoagulants. Mmh. Donc on ne joue pas à l'apprenti chimiste.
Il n'y a aucun traitement préventif du coronavirus.
Aucun. La seule chose qui réduit la mortalité, c'est prouvé, c'est dans une phase avancée de la maladie, c'est les corticoïdes, la dexaméthasone. Mais ça, c'est à l'hôpital. Lorsqu'on a besoin d'oxygène, et oui, ça marche. Mais pour le reste, on n'a aucun traitement qui a fait preuve de son efficacité.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 3921, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h sur Europe 1. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, docteur Barbara Hersant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien plasticien à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous êtes également membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors je suis certaine que notre thème du jour intrigue déjà pas mal de nos auditeurs. On a dit qu'on parlait des chirurgies de l'intime chez l'homme. Alors ça comprend quoi, grosso modo, pour l'instant ?
Alors les chirurgies plastiques de l'intime, ça va être tout ce qui est pénoplastie, c'est-à-dire augmentation du pénis à visée esthétique. Ça va être le lifting du scrotum, c'est-à-dire les bourses, cette peau qui entoure les testicules. Ça va être la discussion autour de la circoncision, circoncision esthétique de confort. Et ça va être aussi la chirurgie du pubis chez l'homme.
Et vous avez beaucoup de demandes parce qu'on a
l'impression
que c'est un truc...
Il est surpris, Jimmy, autant que nos auditeurs, je crois.
Est-ce que c'est un truc un peu pas tabou, mais c'est vrai qu'on en parle très peu. Est-ce qu'on en parle peu parce qu'il n'y en a pas ou parce qu'on n'a pas spécialement envie de dire que j'ai été faire un lifting des testicules, là, comme voilà. Ça, c'est dur à placer dans une conversation.
Ouais. Oui, alors, effectivement, c'est une chirurgie un peu confidentielle, de niche, mais il y a une demande qui explose. Et...
Qui explose ?
Ah oui,
qui a,
de plus en plus de patients qui consultent pour ces demandes. Les hommes sont de plus en plus à l'aise. En fait, ça se faisait beaucoup à l'époque... dans des cabinets qui n'étaient pas médicaux. Il y a toujours eu des injections dans le fourreau de la verge, des injections de produits
avec
non autorisés, avec beaucoup d'accidents.
Ouais,
donc il y a toujours eu une demande.
Ouais, donc chez vous, il n'y a pas d'accident, faire pas y venir, il y en a peut-être, mais bon...
On s'occupe des complications,
on fait attention. Vous dites que c'est une explosion, vous avez des chiffres chez vous, par exemple, ça fait quoi,
alors,
quelle part de votre activité ?
Malheureusement, on n'a pas des chiffres officiels, mais on sait que la chirurgie esthétique du corps chez les hommes a augmenté de plus de 30% dans les 5 dernières années. Maintenant, on n'a pas de chiffres exacts parce qu'il faudrait pouler finalement toutes les statistiques du privé et du public et on n'en est pas capable.
Ils ont quel âge les hommes qui viennent vous voir pour une chirurgie du pénis ou du scrotum ? Il y a une tranche d'âge en particulier où ça peut toucher
Alors, pour moi, il y a deux moyennes d'âge. Ouais. C'est soit les jeunes messieurs entre 20 et 25 ans qui sortent de l'adolescence et qui décident de résoudre leurs problèmes, leurs complexes. Ouais. Et puis, on a joué un deuxième pic. C'est des hommes de plus de 50 ans. Souvent, c'est après un divorce. Et voilà, peut-être une perte de confiance.
Chez les femmes aussi, mais ce n'est pas forcément là qu'elles agissent. Mais d'accord.
Exactement. Exactement.
Alors, je dois vous avouer que je suis fasciné par le lifting.
Vous n'avez ni 20 ans ni divorcé, Jimmy.
Non, pour l'instant, j'ai peut-être encore quelques années devant moi. Mais justement, quelle est la demande principale chez les hommes ? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent pour lequel vous intervenez ?
C'est la pénoplastie, c'est l'augmentation du pénis. Il y a vraiment une forte demande pour l'allongement et surtout l'élargissement du pénis. Voilà, pour se sentir plus en confiance.
Et j'ai des gens qui vous considèrez dont ils ont besoin de ça. C'est-à-dire, est-ce que vous dites, bah oui, effectivement, par rapport à la moyenne, bon, on peut comprendre que l'image que ça peut renvoyer est problématique ou finalement, c'est une taille qui paraît standard et ils se sont mis des trucs dans la tête peut-être et une angoisse.
C'est pas une invasion de micropénis, quoi, c'est ça hein ?
Alors non, il n'y a pas une épidémie de micropénis actuellement. Donc, il y a des gens qui consultent pour un micropénis. La définition, c'est moins de 7 cm en érection. que ce soit en longueur ou en circonférence, c'est quand même peu fréquent. Ça, ces patients-là sont pris en charge par la Sécurité sociale. Et par contre, il y a la chirurgie esthétique, hein, un peu narcissique, des patients qui ont des pénis de taille tout à fait normale et qui veulent une amélioration. Voilà.
Après, mais le gros de votre patientèle, oui, le gros de votre patientèle, ouais, c'est des gens qui en fait sont en
standard normal, c'est ça, ouais, c'est tout ça, à fait. Des... Après, on parlait d'épidémie, il y a aussi une épidémie d'obésité.
Ah oui, ça oui.
Et
pour
du
le coup,
quand on est obèse, hein, il y a la verge qui se rétracte, qui enfouit.
C'est vrai qu'on en parle pas souvent, mais c'est une conséquence.
Oui, ouais, c'est une grosse conséquence. Et donc, il y a aussi beaucoup de messieurs obèses qui consultent pour leur verge. Ils sont même plus capables de pénétrer parfois.
Hein. Ouais, donc, oui, c'est effectivement.
Donc oui, c'est pas juste esthétique. Parfois aussi, c'est carrément fonctionnel, médical. C'est ça la demande. C'est parce que vous dites, certains même ont des problèmes pour décaloter. Enfin, il y a des choses vraiment très médicales aussi.
Fonctionnelles, hein, ouais, tout à fait, de confort.
Et parfois, est-ce que vous pouvez intervenir après, notamment des accidents, des chirurgies qui ont pu un peu rater à l'étranger? Est-ce que vous rattrapez des catastrophes en quelque sorte?
Alors, ça arrive. On a eu des cas de chirurgie esthétique, de circoncision. Hein. Il y a beaucoup d'hommes actuellement qui veulent des circoncisions esthétiques à l'âge adulte. Et où il y a eu des brûlures du gland, des nécroses du gland. Donc ça, on est obligé de faire des reconstructions. Et ce qu'on voit le plus en termes d'accidents, hein, c'est les injections de silicone, de paraffine, des produits qui sont totalement interdits à l'étranger ou parfois dans les cabinets d'esthéticiennes.
Ouais, donc à déconseiller complètement, on est d'accord.
Complètement.
Hein, ouais, vraiment.
Ça entraîne des nécroses, c'est-à-dire la peau du fourreau qui meurt et qu'on est obligé d'exciser.
Et vous avez confié aussi qu'il y a une part de votre activité qui se situe donc dans cette région anatomique-là, qui est aussi due à des... Alors c'est un peu plus surprenant, à des accidents avec des jouets sexuels, des choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous opérez quand même régulièrement.
Oui, alors il y a un engouement, je crois, pour l'utilisation des cock rings.
Donc, c'est quoi ça?
Des cock rings. Donc c'est des anneaux qui peuvent être en silicone ou dans des métaux particuliers qui sont mis à la base de la verge.
D'accord.
Et ça peut rejoindre d'ailleurs le scrotum. Et ça permet de garder la verge en tumescence. Sauf que si les patients ont pris des substances illicites ou de l'alcool et s'endorment avec, il peut y avoir une tumescence tellement importante de la verge que ça entraîne une nécrose.
On ne peut plus enlever en fait le truc, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, et la verge nécrose, donc on peut être obligé d'intervenir.
Ah, oui. Mais vous faut tout couper ? Non, enfin, je ne sais pas, je me demande.
Non, parfois, oui, il faut arriver à même couper le cock ring.
Oh,
parfois, ils viennent à l'hôpital.
Vous allez avec une scie et...
Ah oui, parfois, oui.
Waouh, c'est incroyable.
Alors, le seul anneau que j'ai, moi, c'est une alliance, elle est sur ma main.
Gardez celui-là, c'est bien sûr.
Mais justement, est-ce que vous devez rentrer un peu dans l'intimité des hommes qui viennent vous voir en leur posant des questions sur leur vie sexuelle, vu qu'ils viennent pour une plainte, donc il faut aussi peut-être les interroger un peu plus qu'en temps normal?
Oui, tout à fait. Alors, il faut bien rappeler que la chirurgie esthétique de la verge, elle n'est pas faite pour améliorer les performances. Quand il y a des troubles de l'érection, c'est-à-dire les patients qui n'arrivent pas à être en érection, il faut plutôt voir un urologue. Donc la chirurgie esthétique, elle va améliorer l'esthétique de la verge, mais elle ne va pas améliorer du tout les performances. Donc ça, il faut bien être honnête aussi avec les patients. Mais parfois, on remarque chez les patients, quand ils se sentent plus à l'aise avec leur sexe, ils se sentent plus à l'aise dans leur vie sexuelle aussi.
Mais vous nous avez dit en préparant l'émission que souvent, quand ils arrivent jusqu'à votre consultation, on va dire, ils sont déjà un peu renseignés sur ce qu'ils veulent.
Oui, tout à fait. Là,
sur Internet,
il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses sur Internet, sur ce domaine-là.
Docteur Hersant, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, docteur Barbara Hersant. Vous êtes chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Vous êtes membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Et donc, docteur Hersant, on va passer au bloc opératoire à présent. Avec vous, on va débuter par le lifting des testicules, donc du scrotum des testicules. C'est en fait un remodelage du scrotum. Là, c'est parce que le patient, vous l'avez déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, a trop de peau qui pend. Enfin, parce que quand on dit lifting, c'est que vous allez tirer tout ça, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc, c'est des patients qui se plaignent des bourses qui pendent.
Hein, avec bourses, un excès. Ça pend, non c'est normal.
Oui, c'est normal, mais c'est vrai que ça peut, après, une variation pondérale avec l'âge. Ou par exemple, il y a des patients qui ne portent pas de sous-vêtements, des patients qui n'en portent pas. Et donc, du coup, il va
parce
y avoir
une parce
que ces
hommes ont ce problème-là, parce qu'on connaît les femmes avec les seins qui tombent avec l'âge, mais les hommes aussi, ça tombe plus en vieillissant. Donc
l'âge, clairement, ça peut être un facteur.
Tout à fait. Mmh. Et donc, on va proposer une résection de la peau du scrotum. On laisse les testicules en place. Mmh. Hein, on n'y touche pas, on les laisse tranquilles. Et on va donc, du coup, effectivement, lifter le scrotum. Ça va remonter d'ailleurs les testicules un petit peu pour donner un aspect plus juvénile au scrotum.
Mais du coup, les testicules, le scrotum, il pend jusqu'où ? Est-ce que ça pend beaucoup ? Est-ce que, puisqu'on a...
Ah oui, même vous, vous ne saviez pas que ça pouvait pendre autant.
Non, mais ça, si, merci quand même. bref. Mais du coup, ça... Parce que, ok, ça pend, mais ça pend à quel point ? Et est-ce que ça peut les gêner dans la vie de tous les jours ?
Oui, parce qu'on peut avoir
besoin d'un lifting. Est-ce qu'il y a une gêne fonctionnelle à la marche,
à la
course ?
Alors, il peut y avoir...
Vous savez si ça va jusqu'au genou ou pas, en gros. Hein, je vous le dis plus simplement.
Non, il y a des patients, clairement. Bon, alors ça, c'est culturel, mais par exemple, les patients qui... Enfin, les hommes qui portent des djellabas sans sous-vêtements, ils ont effectivement des scrotums qui tombent très bas, hein, jusqu'à mi-cuisse. Ouais,
donc, tout à fait. Jusqu'à mi-cuisse. Les testicules jusqu'à mi-cuisse.
Voilà, donc ouais, les bourses.
Mais ça fait mal ou c'est juste gênant ? Parce que je me demande si
gênant.
Entre les cuisses, du coup, ça doit.
Là, par exemple, cette semaine, j'ai vu un patient qui avait un scrotum qui pendait un petit peu, mais c'était pas non plus la catastrophe, qui me disait qu'il était très gêné en moto. Voilà. Ouais. Ça te gênait énormément en moto.
D'accord. Bon, et comment vous faites, du coup, vous retirez la peau en excès ?
C'est comme un lifting du visage. On enlève la peau qui est en excès et on camoufle la cicatrice au niveau du raphé médian. Vous voyez, c'est la petite palmure qui est au milieu du scrotum. Mmh. Et on cache la cicatrice là et ça ne se voit pas. Et puis, c'est une zone qui cicatrise vraiment très, très bien.
D'accord. Et donc, la cicatrice, elle se retrouve dans cette ligne-là au milieu. Il y a une grande ouverture. Enfin, vous faites combien de points en général ?
Oh oui, il y a même beaucoup de points. Il y a une quinzaine de points.
C'est en train de calmer tout ce qui y pensait, mais d'accord.
Mais ça ne refroidit pas malgré tout. C'est-à-dire qu'en leur expliquant qu'on va ouvrir le scrotum et qu'il va y avoir 15 points de suture et que je suppose c'est sous anesthésie générale.
On espère.
Ouais.
Ou rachianesthésie.
Ah, donc on peut être conscient de ce qui se passe, d'accord. Vous en avez des gens qui acceptent comme ça sous rachianesthésie?
Oui, tout à fait. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas être en
vous voudriez la générale, là.
Moi, je ne veux pas qu'on y touche dans un premier temps, mais bon, voilà. Et donc, malgré tout, en leur expliquant les choses, ils y vont. Et donc, ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Il y a un niveau de satisfaction important. Les gens sont contents ensuite du résultat.
Alors, sur le lifting de scrotum, il y a une très grosse satisfaction. Parce que c'est une chirurgie, quand même, où il y a peu de risques, où la cicatrisation se fait vraiment très bien. C'est vrai que la peau du scrotum, elle est très laxe, cicatrise très bien, la cicatrice est totalement camouflée.
En 15 jours, 3 semaines,
En 15 jours, 3 semaines, c'est vrai qu'il faut arrêter les rapports sexuels pendant une semaine, éviter les bains, le sport pendant une semaine ou deux. Mais c'est vrai que ça cicatrise très bien.
Ça coûte combien, un lifting des testicules ?
Alors, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, sauf s'il y a un problème vraiment fonctionnel avec un enfouissement de verge.
Ou qu'on a perdu 40 kilos et que ça pend beaucoup.
Ça peut se discuter, mais en esthétique, on est sur des tarifs entre 1500 et 3000 euros.
D'accord. Et vous pouvez même aller plus loin, vous faites une orchidopexie, c'est quoi ça ?
Alors, les orchidopexies, c'est le fait de fixer les testicules, mais en esthétique, en général, on évite. Hein. On ne touche pas parce que là, c'est vraiment... testicule, c'est très important. C'est l'organe noble du scrotum.
Des hommes.
Que, on n'y touche pas.
Moi, je pense plutôt au cerveau en général, mais quand je dis l'organe noble, mais ok.
Chacun son organe noble. Alors, vous l'avez dit, il y a deux facteurs qui vont déterminer justement un scrotum qui va pendre, c'est l'âge. Et aussi, du coup, nos vêtements, vous l'avez dit, les hommes qui ne portent pas de sous-vêtements ou des djellabas vont avoir des testicules qui pendent. Ça veut dire qu'il faut porter des sous-vêtements
Comme pour la poitrine. Exactement comme pour les seins. Vous voyez, les femmes qui ne portent jamais de soutien-gorge.
C'est pas facultatif, alors.
Non.
Parce que pour la poitrine, on avait dit qu'il y a un ligament qu'on appelle le ligament de Cooper, qui sert à suspendre en quelque sorte les seins. Et que quand on porte justement un soutien-gorge, le ligament s'atrophie et que du coup, les seins vont tomber parce qu'on l'a empêché. Donc en fait, on entend un peu tout et son contraire. Mmh. Mais pour les hommes, on met des slips.
Voilà, il faut mettre des slips.
Même la nuit ou la nuit, c'est pas très... Parce que ça aussi, des fois, les enfants, on leur dit non, dors sans slip, mettons en pyjama tel quel.
Non, la nuit, ça va parce qu'il n'y a pas la pesanteur non plus. C'est la position debout, c'est le déclive.
Vous disiez donc on en ressort plutôt correctement une semaine à peu près de rapport sexuel d'abstinence,
tout à fait.
Pour le reste, on peut aller travailler, il faut un arrêt maladie. Je veux dire, on peut marcher sans avoir de douleur. Comment ça se passe dans les suites, les quelques jours qui suivent ?
Alors, dans les suites, comme toute chirurgie à ce niveau-là, ça tire, il y a des douleurs, il faut faire attention à la position assise, après être allé aux toilettes ou autre, il faut faire une toilette intime. Mais au bout de quelques jours, on reprend sa vie normale.
Et est-ce que les partenaires sont aussi satisfaits du résultat ? Parce que souvent, dans un couple, il y a deux personnes, ou parfois plus, mais en tout cas, deux en règle générale. Est-ce qu'il y a aussi le même niveau de satisfaction ? On dit oui, finalement, je trouve que c'est mieux comme ça, ou finalement, ça ne touche que la personne qui a été opérée, sous-entendant qu'il y avait peut-être pas forcément une urgence à le faire. Non,
elle est intéressante votre question. J'ai jamais eu de retour de partenaire sur cette chirurgie. Autant
seul, à mon avis.
Pour la pédoplastie, oui, il y a des retours de partenaires, mais sur le scrotum, je crois que c'est quand même quelque chose de très personnel.
On va terminer sur cette partie-là. Il y a aussi une autre demande de plus en plus à la mode, entre guillemets, c'est le scrotox. C'est quoi le scrotox ?
Alors le scrotox, c'est pour moi un nom marketing qui a été mis en place aux États-Unis, qui consiste à l'injection de toxines botuliques ou Botox, d'où scrotox, c'est la contraction de scrotum et Botox. Donc c'est le fait de mettre de la toxine botulique dans le scrotum.
Mais pourquoi on fait ça ?
Quel est l'intérêt ?
Alors le but, c'est de dilater, de relaxer le muscle trémastérien, c'est-à-dire c'est un muscle qui se trouve sous la peau du scrotum, de manière à ce que les bourses soient plus larges et déridées, défripées.
Pour ne plus avoir de rides sur le testicule ?
Alors c'est un peu le truc qu'on peut faire avant le lifting, quoi, c'est ça ?
C'est un peu l'opposé du lifting, en fait. Hein.
D'accord. Voilà. Mais ça, c'est très demandé aussi, quand même.
Pour moi, c'est une demande qui n'est pas... moi, ça m'intéresse, parce que voilà, c'est un domaine qui m'intéresse, mais il faut savoir qu'il faut mettre énormément d'unités de toxines botuliques pour avoir un effet. Je trouve que les effets sont quand même assez décevants. Donc, je pense que c'est perdre un peu son argent pour rien.
J'allais dire, ça coûte cher, parce que si vous faites beaucoup ça à la piqûre, quoi, à la dose, donc ça coûte combien en moyenne ? Il faut en mettre combien ?
Ampoule, c'est entre 300 et 400 euros, donc il en faut quand même pas mal. Donc, il y a pas vrai. 4, 5, et la toxine botulique ne fonctionne... la durée de vie de la toxine, c'est 4 mois, 4 à 6 mois. Donc, c'est pas très intéressant.
Faut avoir envie de se faire piquer tout régulièrement, en plus, dans cette zone-là.
Par contre, il y a une étude scientifique qui a montré l'intérêt de la toxine botulique pour les douleurs scrotales. Ah oui. Donc, il peut y avoir un intérêt pour ça.
Dans cette indication-là. Docteur Hersant, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est le docteur Barbara Hersant. Vous êtes chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et également membre de la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Alors, docteur Hersant, avec vous, on s'intéresse aujourd'hui, on a dit, aux chirurgies de l'intime chez l'homme. Et donc, on va passer au must, celle qui est en plein boom, la pénoplastie, opération au niveau du pénis. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, d'abord, vous disiez, il y a à la fois l'allongement et puis l'élargissement. On va commencer peut-être par l'élargissement. Il y a deux techniques pour ça, on va le voir. La première, c'est d'utiliser sa propre graisse, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc on pratique une lipoaspiration, on purifie cette graisse et on va l'utiliser pour expandre le fourreau de la verge.
Et cette graisse, on la prend où ? N'importe où ?
Alors, en général, chez l'homme, on va la prendre sur une zone qui est assez stable. Donc, c'est l'abdomen ou les poignées d'amour.
Là où il y en a.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut y en avoir. Parce que vous avez des hommes très musclés et chez qui, malheureusement, vous n'avez pas de quoi prélever de la graisse.
Oui, exactement. Donc, ces patients-là, on va plutôt les orienter sur des injections d'acide hyaluronique.
Et qu'est-ce qu'on peut gagner quand on, justement, s'injecte de la graisse ? Quels résultats on peut avoir sur le pénis ?
Ça permet... alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 30% de la graisse qui meurt, mais tout le reste définitivement. Et en général, on a une circonférence qui est augmentée de 2 cm.
Ah, quand même, c'est pas mal. Donc, vous prenez beaucoup de graisse, j'imagine, dans les hanches ou dans les fesses ou dans le ventre.
Après, on ne peut pas non plus trop saturer le fourreau de la verge, parce que ce n'est pas un très bon site de greffe. Je rappelle juste qu'on n'injecte jamais dans les corps caverneux. C'est vraiment sous la peau. Dans les corps caverneux, c'est une éponge vasculaire, donc on ne va pas se permettre d'injecter de la graisse à ce niveau-là, jamais.
Oui. Donc ça donne un effet plus d'eau du... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais...
Plus large,
c'est ça,
voilà.
D'accord, mais oui, mais comme c'est de la graisse, j'ai l'impression que ça va être un peu grassouillé, vous voyez ce que je veux dire ?
Alors,
c'est...
ça n'a pas non plus la souplesse de la graisse bien vascularisée,
voilà.
Donc c'est quand même...
J'essaie d'expliquer, mais j'avais du mal.
Voilà, mais c'est pas... Effectivement, c'est un petit peu moins ferme que l'acide hyaluronique.
D'accord,
et
tout à fait.
Le résultat, il est harmonieux ? Est-ce qu'on va passer... je sais pas, d'un knacky bien lisse à un truc.
Vous voyez, vous galérez vous aussi. Hein.
Non, mais c'est dur à dire, parce qu'on se dit, si on rajoute de la graisse, ça va être tout bosselé, pas très joli, ou au contraire.
J'imagine que vous la massez pour qu'elle aille bien partout, quoi, non ?
Alors, elle est en fait très intéressante, votre question, parce que c'est pas facile d'injecter le pénis, parce que le pénis, il passe de la phase d'érection à la phase de semi-érection au repos. Donc, en fait, le produit est systématiquement ramassé. Et c'est vrai que le risque de cette intervention, c'est que ce soit pas tout à fait régulier.
Et que ça fasse des bosses, donc c'est
ça. Que ce soit un peu bosselé, donc il peut y avoir effectivement des retouches. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre, il faut plutôt y aller étape par étape pour avoir quelque chose de bien régulier.
Quand vous faites avec la graisse, ça coûte combien à peu près cette intervention-là ?
Les tarifs vont... Là, ça dépend vraiment des praticiens. Ça va de 3 500 à 10 000 euros.
Ah oui, dis donc, c'est large la fourchette là pour le coup. D'accord. Ouais. Et l'injection d'acide hyaluronique, j'y reviens. Moi, j'ai l'impression que ça a l'air plus tentant, comme, parce que c'est plus stable.
Oh, c'est vite dit, vous n'êtes pas un homme pour
non,
dire ça.
Non, je ne suis pas de verge, alors je m'en fiche. Mais effectivement, mais vous disiez la graisse, là, ça peut bouger, c'est pas très stable, c'est compliqué. Donc autant opter direct pour l'acide hyaluronique.
Alors, l'acide hyaluronique peut aussi bouger, il peut y avoir des irrégularités, mais c'est vrai que ce qui est plus pratique avec l'acide hyaluronique, c'est qu'il existe un antidote qui s'appelle la hyaluronidase. Donc s'il y a un petit souci, on peut juste injecter une goutte de hyaluronidase s'il y avait un petit excès d'un côté plutôt que l'autre. C'est plus facile effectivement à manier. On n'a pas besoin de retourner au bloc opératoire.
Et donc vous faites plusieurs injections ou en une fois c'est réglé ? Est-ce qu'on doit revenir ?
Oui, en une fois on fait une procédure où on va injecter une certaine quantité d'acide hyaluronique et on revoit le patient en général à un mois. S'il y a une irrégularité, on fait une retouche. Et si besoin, on peut en rajouter, mais il ne faut jamais mettre des produits.
Que ce soit de la graisse ou de l'acide hyaluronique, j'imagine que ce n'est pas à vie. Si c'est un jeune homme de 25 ans qui vient pour ça, bah, il devra revenir tous les combien ? Parce qu'après, ça va disparaître. Hein, c'est
alors,
ça
l'acide hyaluronique, au bout de 2 ans, effectivement, ça disparaît. Ouais. Après, on remarque quand même dans notre expérience qu'il y a une fibrose qui s'installe et qu'on n'est pas obligé de remettre les mêmes quantités que la première fois.
Une fibrose, ça veut dire quoi ?
Une fibrose, c'est une cicatrice en fait interne. Mmh. Donc du coup, qui fait un peu d'épaisseur naturelle. Mmh. Donc on n'est plus obligé de mettre les mêmes quantités qu'au départ. Par contre, le lipofilling, c'est-à-dire la graisse, bah ça c'est tout de même définitif. Par contre, ça varie avec le patient. C'est-à-dire que si le patient il grossit, eh ben ça grossit. Par contre, si on maigrit, la verge...
Non, mais s'ils viennent pour cette indication-là, j'imagine qu'ils sont contents si ça grossit encore. Enfin, je ne sais pas. Mais... Par contre, ça maigrit s'il perd du poids.
Voilà, exactement.
Il faut être un peu sûr de son poids qui va être stable.
Voilà, il faut être stable. Ouais,
c'est ça. Je vois que vous êtes très enjouée, Mélanie, à ce sujet. Alors, on a parlé de la circonférence. Est-ce qu'on peut faire quelque chose un peu plus simplement pour allonger un pénis, parce que je suppose que c'est aussi une demande que vous avez.
Alors l'allongement, il y a une demande. Là, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus invasive, puisqu'on va devoir aller couper le ligament suspenseur de la verge, qui
est
situé, c'est un ligament qui est entre la symphyse pubienne, donc le pubis, l'os, et les corps caverneux.
C'est lui qui tient la verge, en fait.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Et donc, on va couper ce ligament de manière à ce que tous les corps caverneux qui sont à l'intérieur du corps ressortent à l'extérieur. Donc, ça ne va rien améliorer en érection.
C'est comme si on coupait la bretelle d'un soutien-gorge, pouf, ça se détend après.
Exactement.
Ça sort.
Ouais. Sauf que derrière, pour pas que ça se rétracte de nouveau, parce que c'est le risque de cette chirurgie, c'est que ça se fibrose.
Donc, cicatrice encore.
Et du coup, ce ligament réapparaît encore pire. Et du coup, parfois, la verge peut être encore plus petite. Donc, il faut incarcérer une petite prothèse ou des lambeaux de graisse de manière à ce que
à
ça ne se rétracte.
À la place du ligament, enfin derrière.
Exactement. Donc c'est quand même une chirurgie lourde qui va permettre un allongement de 1 ou 2 cm maximum.
Ah oui, pas plus, d'accord.
Voilà. Donc, 1 ou 2 cm. Et...
Après, c'est parfois 1 cm beaucoup pour un homme.
Oui, ce que j'allais dire, derrière, le niveau de satisfaction, il est important. Les gens sont contents avec ce centimètre supplémentaire ou ces 2 cm.
Des hommes très complexés, oui. Ouais. Ils sont satisfaits.
Et dans tous les cas, ça se fait sous anesthésie générale. Du
voilà.
Coup,
mais... Il veut de la générale pour tout, Jimmy.
Non, mais il n'y a pas de rachat d'anesthésie.
Que
on
vous
pas
touchiez au scrotum à la verge, c'est général. Hein. Les hommes ne sont pas courageux de toute façon. Non,
donc, anesthésie générale.
C'est impressionnant.
Et les cicatrices, là, est-ce que du coup, comme vous avez dit, où on coupe un ligament, est-ce qu'elles seront plus
visibles ? Oui, il y a une cicatrice, puisqu'on fait aussi une petite plastie en VY au niveau du pubis. Donc, il y a une cicatrice. Donc moi, je ne le recommande pas pour les patients qui font, par exemple, l'épilation laser définitive. On voit de plus en plus d'hommes qui s'épilent au niveau du pubis. Donc là, la cicatrice, elle se voit. Par contre, s'il y a des poils, c'est tout à fait camouflé.
D'accord. Mais vous disiez, on coupe le ligament suspenseur, c'est comme ça qu'on dit, voilà.
Exactement.
Une fois, mais il ne sert pas à quelque chose à la base. Je veux dire, si on le coupe, est-ce que la verge, j'en sais rien, elle part dans tous les sens, parce qu'il a bien une utilité s'il
Exactement.
Était là au départ.
Ouais. Ce ligament, il sert quand même à maintenir en fait la verge.
Et alors après quoi, elle est toute faux folle. Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Toute faux folle. Non mais attendez, c'est pas un animal.
Non mais puisqu'on alors, la coupe, ça sert à quoi?
On le coupe pas totalement, on le coupe partiellement de manière à ce que la verge en érection puisse quand même tenir, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Le risque, c'est le faux pas coïtal.
Ça veut dire
le faux pas coïtal, c'est quand on pénètre la partenaire ou le partenaire sans maintenir sa verge, et donc il peut y avoir une fracture des corps caverneux. Donc faut faire attention.
Okay.
En
oui,
fait,
j'ai bien fait de poser la
de
question.
De bien maintenir
quand même,
sa verge. Oui, tout à fait.
Le faux pas doit être un peu douloureux. Alors, est-ce qu'il y a un prix, je suppose, qui doit être aussi important, parce que C'est une chirurgie esthétique assez technique, un peu de niche en quelque sorte. Il faut compter combien pour ce genre d'intervention?
Oui, il faut compter autour de 5000 euros pour ce type d'intervention. Après, on utilise cette chirurgie aussi pour les micropénis. Donc là, c'est pris en charge pour les verges enfouies également.
Donc il faut avoir moins de 7 cm.
Moins de 7 cm ou des patients qui sont totalement enfouis. Hein. On a des patients qui ont des maladies neurologiques. On ne peut même pas leur mettre une sonde urinaire.
Ah oui.
Donc on va leur faire ce type de technique à l'hôpital.
Et là, évidemment, c'est remboursé.
Ça ressort un petit peu, mais ça permet au moins qu'ils aient une sonde, par exemple.
Ah oui, c'est incroyable.
Et au bout de combien de temps on peut avoir des rapports sexuels une fois qu'on a fait cette intervention?
À peu près 3 semaines. Pour l'élongation, à peu près 3 semaines. Pour les injections d'acide hyaluronique, une semaine.
Donc là, il parle des rapports sexuels, mais bon, un homme, ça peut avoir des érections dans d'autres circonstances.
Tout à fait.
Ça peut être douloureux, non, après une intervention comme ça? Est-ce que vous donnez quelque chose pour empêcher justement les érections?
Alors, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément d'érections en post-opératoire. Il y a quand même des érections matinales. Voilà. Donc, si elles sont vraiment douloureuses, on donne une demi-dose d'androcure.
Un médicament qui empêche l'érection. D'accord.
Est-ce que vous avez des hommes ou des prétentieux qui sont venus vous voir en disant au contraire qu'elle est un peu trop grosse et qu'il faudrait la raccourcir? Est-ce que ça aussi, ça existe?
Non, on ampute le bout.
La rendre moins volumineuse. Enfin bon, vous avez compris.
Les prétentieux, quoi.
Les prétentieux, dans mon expérience, j'en ai vu quelques-uns. Après, c'était des patients réellement psychiatriques. Voilà.
Oui,
et clairement, on ne va pas
répondre. Vous ne les opérez pas, ceux-là?
Non, parce que réduire une verge, c'est l'amputer. Donc, on ne va pas se permettre de faire ça.
Vous envoyez juste à vos collègues psychiatres, plutôt.
Exactement. Ou sexologues.
Un petit bonus, il y a aussi vous nous avez dit en préparant cette émission, des hommes qui vous consultent parce qu'ils ont le gland trop sensible. Notamment, ça fait des problèmes d'éjaculation précoce. Là, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer à ces hommes-là?
Alors, pour les patients qui ont l'éjaculation prématurée, il faut peut-être rappeler la définition pour les auditeurs. C'est un patient qui, depuis ses premiers rapports, 80% du temps, éjacule dans la première minute après pénétration.
C'est important de préciser.
C'est très important. Et avec tous les partenaires ou toutes les partenaires. Donc ça, c'est important de le préciser parce que parfois, on peut être sensible avec une femme en particulier et pas les autres.
D'accord. Là, c'est plus psychologique que
technique.
Voilà.
Et ça, c'est pas pour ça qu'on a un syndrome d'éjaculation précoce.
Et pour eux, on fait quoi?
Donc, pour ces patients-là, ce qu'on peut proposer déjà tout simplement, c'est les gels de lidocaïne. Donc, c'est un anesthésiant avant la pénétration pour avoir moins de sensibilité.
Il se le met lui-même avant le rapport.
Voilà, exactement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées, des médicaments. C'est pas d'une très grande efficacité. Après, maintenant, on propose des injections d'acide hyaluronique très superficielles au niveau du gland pour faire une petite interface.
Ça va désensibiliser un petit peu.
Exactement.
C'est ça. D'accord.
Parfois, on peut proposer également des circoncisions partielles parce que les patients qui ont des phimosis-like, c'est-à-dire qui sont des glands qui serrent beaucoup qui ont des prépuces qui serrent beaucoup le gland, on peut faire une circoncision de façon à ce que le gland se kératinise et soit moins sensible.
Très bien, mais écoutez, c'était passionnant. Merci beaucoup docteur Hersant de nous avoir accompagnés cet après-midi. Bonne continuation, merci encore.
Merci à vous.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors à présent, on va passer à notre séquence, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur la vitamine D et son intérêt éventuel en supplémentation dans le contexte actuel. Alors pour faire le point avec nous, vous êtes en ligne avec nous, docteur Laurence Plumet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste et fondatrice d'EPM Nutrition, l'école de nutrition et de napsothérapie. Et avec vous, on va revenir justement quelques minutes sur la vitamine D dans le contexte de l'épidémie de SARS-CoV-2. On entend parler beaucoup de ça, de cette vitamine. Que nous disent réellement les études à ce sujet?
Eh bien, ces études sont très intéressantes parce que les médecins se sont rendus compte que quand les patients étaient infectés par le virus, s'ils n'avaient pas de carence en vitamine D, ils faisaient assez peu de symptômes. Par contre, ceux qui faisaient des symptômes, voire qui développaient une Covid-19, dans 90% des cas, présentaient une carence en vitamine D. Donc ça a commencé à interpeller et de se dire, mais après tout, est-ce qu'il y a peut-être un lien entre les deux? Et oui, il y a un lien entre les deux.
Jimmy ?
Alors, il y a un lien entre les deux, mais ça veut dire que quand on manque de vitamine D, on va faire peut-être plus une forme grave, mais ça ne veut pas dire qu'en corrigeant cette carence en vitamine D, on va éviter le Covid, on va éviter d'aller à l'hôpital.
Non, bien évidemment que non, ça ne protège pas du virus. Mais en connaissant bien les mécanismes par lesquels la vitamine D intervient, on se rend compte qu'elle mobilise un certain nombre de ressources internes qui diminuent les risques de développer une forme grave quand on est infecté par le virus.
Docteur Plumet, justement, quels sont les mécanismes qui font que la vitamine D soit impliquée justement dans cette histoire de défense immunitaire ?
Oui, alors justement, bon, tout le monde sait que la vitamine D facilite la fixation du calcium sur les os, mais cette vitamine est beaucoup plus qu'une vitamine, c'est également une hormone qui a la capacité de se fixer sur les récepteurs cellulaires et avoir plein d'actions. Entre autres, dans le domaine de l'infection, on s'aperçoit que la vitamine D, quand elle est en quantité suffisante, elle augmente la mobilité des globules blancs vers le site de l'infection, elle diminue la synthèse des fameuses cytokines inflammatoires qui sont responsables de l'orage cytokinique qui fait tellement de mal au niveau des poumons et de tout le reste. Donc ça diminue la synthèse de ces cytokines. Autrement dit, ça a un rôle plutôt anti-inflammatoire. Et on s'aperçoit aussi que la vitamine D en quantité suffisante contrecarre les effets du virus sur l'augmentation de la pression artérielle. Parce que ça fait partie des complications que l'on voit dans la Covid-19. Mmh. On voit que la pression artérielle augmente et que ceci contribue à altérer le fonctionnement des organes vitaux comme les reins et le cœur. Autrement dit, la vitamine D s'oppose aux effets délétères du virus sur les organes. Oui. Et donc, c'est pour ça que ça limite les risques d'évolution vers des formes sévères.
Et Laurence, comment cette vitamine D, où est-ce qu'on la trouve? Parce qu'on a vu les patients se ruer chez les médecins, demander des prescriptions d'ampoules de vitamine D. On n'est pas obligé de passer par là. On peut en trouver peut-être dans l'alimentation et en accès libre chez le pharmacien.
Oui, bien sûr. En fait, tout dépend dans quelle situation on est. Parce que si on est en situation de carence, le fait de manger des poissons gras 2 ou 3 fois par semaine et de l'huile de foie de morue, la cuillère à café quotidienne, c'est très bien pour couvrir le besoin quotidien. Mais en revanche, le fait de prendre des compléments de vitamine D, soit sur ordonnance, sous forme d'ampoule ou de gouttes à prendre, qui sont des doses relativement importantes, et c'est la raison pour laquelle elle est sous ordonnance, ou alors sous forme de compléments alimentaires qui couvrent le besoin quotidien, peut ne pas être suffisant dès lors qu'on présente une carence. C'est la raison pour laquelle l'idéal, si on veut vraiment savoir quelle dose prendre, c'est plutôt d'aller voir son médecin généraliste qui pourrait demander, surtout si on fait partie des profils à risque, un dosage dans le sang de la teneur, enfin du taux de vitamine D. Et en fonction de ce dosage, nous pouvons adapter le niveau de supplémentation. Car en présence d'une carence, il faut bien plus que 3 fois du poisson gras dans la semaine. Il faut carrément prendre, selon le niveau de carence et le niveau de taux sanguin de vitamine D dans le sang, il faut prendre une ampoule ou deux par mois, ceci pendant 3 mois. Bref, on adapte la posologie à la situation.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, docteur Laurence Plumet, pour cette mise au point nécessaire dans le contexte actuel. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, comme tous les jours, jusqu'à 16h. Et oui, on est là depuis 15h, jusqu'à 16h, comme tous les jours. À mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, bien sûr, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Voilà, Catherine, qui est sexologue et psychanalyste. Tous les jours, à la fin de cette émission, votre chronique. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question qui nous a été laissée par Maëva, que Jimmy va nous lire tout de suite.
Avec grand plaisir. Un ami m'a confié l'autre jour que sur les applications de rencontres, il se sent obligé de baisser son âge. Il marquait 34 ans alors qu'il en avait 40 en réalité. Je lui ai dit qu'il ne doit pas avoir honte de son âge. Qu'en pensez-vous ? Catherine, est-ce que c'est la loose d'avoir 40 ans ? Mélanie a bientôt 40 ans, elle le vit très bien. Donc pourquoi est-ce qu'on veut absolument...
Pas absolument qu'il pas balance mon âge comme ça gratuitement.
Oui,
tout
je
le
balance
temps.
Le mien, j'ai 33 ans.
Oui, ça c'est ce que vous essayez de nous faire croire. Il essaie de nous faire croire qu'il a 33
mais là,
ans.
Mais... 40 ans, 34 ans, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?
Mais en fait, je crois que c'est la cruauté de notre civilisation qui, sur les magazines, les gens sont jeunes, très jeunes, on donne une idée de la maturité, alors que souvent ce sont des jeunes gens qui sont mineurs. Donc en fait, on mélange un petit peu les générations. Chacun doit avoir l'air beau, doit avoir l'air jeune, dynamique. Là, comme on est dans des applications, il faut donner l'idée du temps.
40 ans, ce n'est pas la vieillesse non plus. Hein.
Mais pas du tout. Mais il y a toujours l'idée, si je suis à 40 ans en recherche,
et oui, c'est ça.
Est-ce que c'est parce que je suis un loser ou une loseuse ? Est-ce que c'est parce que j'ai loupé des choses ? En fait, c'est la peur de ce que les autres vont projeter sur ce que veut dire avoir 40 ans. Encore une fois, avoir 40 ans, avoir 30 ans, pour 30 ans, c'est vieux pour ceux de 20 ans.
Comme on le disait en début de semaine, on est toujours le vieux de quelqu'un. Hein.
C'est ça, on est toujours le vieux de quelqu'un et donc on est aussi toujours le jeune de quelqu'un. Et donc avoir 40 ans sur une appli, c'est se donner la possibilité d'abord d'être très désirable pour des plus jeunes qui cherchent quelqu'un de plus abouti, et puis de se donner la possibilité aussi de rencontrer des gens avec qui on peut converser parce qu'on a le même cheminement, la même évolution, la même richesse aussi acquise. Donc évidemment, pourquoi faudrait-il avoir 34 ans ?
Est-ce que l'ami de Maëva n'est pas un petit coquin qui tout simplement veut rencontrer des personnes plus jeunes, parce que s'il dit qu'il a 34 ans, alors qu'il
n'a pas forcément honte, mais en
il n'a peut-être pas envie des personnes de 40 ans de son âge. C'est peut-être là le vrai, pas le vrai problème, mais la vraie interrogation.
C'est vrai que, et peut-être plus particulièrement pour les hommes, toute la difficulté, c'est de chercher souvent beaucoup plus jeune que soi, plus jeune ou beaucoup plus jeune que soi. Donc si je m'annonce comme ayant 40 ans, je vais éliminer éventuellement les jeunes femmes que je voudrais pouvoir séduire. Mais à ce moment-là, il faut quand même se dire qu'il y a aussi toutes les jeunes femmes qui ont envie justement d'un homme qui puisse être mature. Donc je crois qu'il faut laisser l'âge qui est le sien, parce qu'il y a toutes celles qui ne voudront pas, mais de toute façon, qu'on ait menti ou non, ça va foirer. Et il y a toutes celles qui, au contraire, seront désireuses d'eux. Alors après, évidemment, il y a des femmes de 40 ans qui vont se manifester. Mais peut-être qu'il trouvera au détour des femmes de 40 ans des fort charmantes.
Puis il devrait arrêter quand même, parce qu'on est d'accord qu'à un moment donné, il y a la rencontre. À un moment donné, si ça marche, ça peut durer un petit moment. Il y a bien un moment où l'âge réel va ressortir, quoi. Donc,
oui, mais ça, c'est le problème des applications. C'est que les applications, c'est un peu comme le CV. Vous envoyez votre CV et vous mettez sur votre CV que vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune, donc vous n'avez pas de compétences. Vous avez quelques années de plus. Alors là, vous êtes déjà un vieux et vous avez en rivalité à côté de vous des jeunes gens qui demanderont moins d'argent ou qui seront plus ceci ou moins cela. Donc, je veux dire, à un moment donné, on est ce qu'on est. Et ça ne sert à rien d'essayer de faire croire au réel quelque chose qui, de toute façon, dans le réel, va se mettre à jour. Donc, il faut pouvoir ne pas avoir peur et défendre sa position de son âge plutôt que d'avoir peur de l'idée et des projections des uns et des autres.
Est-ce qu'à 40 ans, justement, il y a ce cap où tout d'un coup, on a l'angoisse et on veut absolument paraître plus jeune? Est-ce que le fait qu'il fasse ça à 40 ans et pas à 39 ans,
clairement,
ça prouve
clairement
un passage voilà.
Oui, vous savez, la crise de la quarantaine. Voilà.
Vous savez, c'est la crise de la quarantaine, mais une fois qu'on a 40 ans, après, on va se dire c'est celle de la cinquantaine. De toute façon, moi, j'entends aussi ceux de la trentaine. Vous imaginez, Catherine, j'ai 30 ans. C'est horrible. finalement, c'est toujours ces dizaines de plus qui nous plongent dans un autre imaginaire à conquérir, une autre vie à conquérir, avec l'idée qu'on laisse derrière soi un temps de jeunesse. Et quand on regarde ça avec un peu de recul, finalement, étions vraiment vieux à 40? Pour ceux qui en ont 50, 60, 70...
On se dit 40, c'était génial.
C'était trop bien. Donc voilà, au lieu de passer son temps à souffrir ce que nous sommes, prenons le temps de nous arrêter sur ce que nous sommes et jouissons de ce que nous sommes, parce que de toute façon, inéluctablement, nous avançons vers le vieillage.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Il nous raconte l'histoire tous les après-midi sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Stéphane qui est, vous savez, est très rigide. Je travaille avec lui depuis très
tellement
rigide, mais
bon,
pas autant que nos personnages
là,
du
c'est
jour.
Enfer et contre tous. Hein. Ce sont des hommes à poigne. Otto von Bismarck, déjà rien que son nom,
ouais, on sent
que
c'est l'homme.
Donnez-nous le nom du deuxième homme à poigne du jour.
Le chancelier de verre.
Vous avez dit c'est des hommes à poigne. Oui. Bismarck et qui?
Et Margaret Thatcher.
Alors, c'est un homme à poigne.
Oui, ouais, bien sûr. Ouais.
La dame de fer. Ce sont... Et vous, en fer, vous avez choisi quoi?
J'ai pas compris tous les jours. Moi, j'ai fait Iron Man.
Tout
simplement le héros de Marvel.
Fer, ouais,
le héros de nos enfants et des adolescents que Stéphane ne connaît pas du tout. Mais ça
fort
sera
comme
l'occasion
l'acier, hein,
de l'édifier un petit peu, fort comme l'acier.
Comme vous, Mathieu.
Un peu comme moi.
C'est ça. Arrêtons là. Ça suffit. Soyons sages, restez sur Europe 1.